Au début, il n'y avait rien quand soudain...
Radio Primitive.
Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. On va faire une émission ce soir en direct avec Sylvie sur le Mali. Alors, comme vous le savez, notre cher président a décidé qu'il fallait partir de là-bas. Faut dire que je pense qu'il va nous le dire, mais je pense que c'est un échec complet, cette histoire de Barkhane. Sylvie, tu m'entends? Sylvie? C'est pas vrai.
Eh ben non, ça fonctionne pas, c'est normal. Je vais essayer de commencer à meubler un peu pour cette introduction. Donc, il y a quelques jours a été acté entre le fromage et le dessert à Bruxelles le départ des forces françaises et la fin de l'opération Barkhane dans des conditions assez pathétiques, puisque vous le savez peut-être si vous suivez l'actualité, le divorce entre l'État français et ses forces armées les gouvernants actuels du Mali, à savoir les militaires issus d'un second coup d'État, étaient en train de se dégrader et se détériorer. Alors Barkhane, ça faisait suite à l'opération Serval. L'opération Serval, c'est une opération qui avait été décidée en 2013-2014, à la suite officiellement de la demande des autorités maliennes pour contrer une descente de colonnes et de soldats et de djihadistes vers la capitale.
Ouais.
Alors, Sylvie, tu es avec nous?
Oui, je suis avec vous, oui. Sauf que j'ai pas entendu le début de ce que t'as dit.
C'est pas grave, j'étais en train d'essayer de meubler pour... je disais que le départ de la fin de Barkhane avait été acté entre le fromage et le dessert à Bruxelles et qu'elle faisait suite à une détérioration grave, absolue, entre les États et entre les forces armées et la population malienne. Voilà.
Ouais. Ça s'est bien empiré après, mais oui.
Oui. Et que donc, on en était là, donc qu'on allait avoir... Bon, peut-être on peut déjà donner l'état des forces en présence, hein, le Mali.
Peut-être qu'avant de donner l'état des forces en présence...
Bah, décris rapidement ce qu'est le Mali.
Parce que tu as dit à juste titre que Serval, c'était pour stopper des avancées de colonnes djihadistes. Il faut quand même rappeler d'où elles venaient, ces colonnes djihadistes. Elles venaient de Libye. Et c'est suite à l'intervention française en Libye. Et c'est la France qui a laissé partir ces colonnes djihadistes lourdement armées. En gros, ils ont récupéré les armes de Kadhafi.
Oui, c'est ça, c'est ce qui semble être le plus probable. C'est assez difficile parce qu'on a eu ce prétexte officiel. En plus, on avait dit que c'était la demande de l'État malien de l'époque. En fait, cette histoire de colonne, ça fait débat parce que on a assez peu eu de véracité sur les faits. Ce qui est sûr, c'est
alors,
comme tu l'as dit.
Alors, quand même, on sait à peu près. Si tu veux, dans le nord du Mali, il y a des soucis depuis longtemps et ce qu'on appelle ici la question de Touareg ou le problème Touareg. Parmi les gardes armés de Kadhafi, il y avait des troupes Touareg. Quand il y a eu l'intervention française en Libye, ces mercenaires Touareg, les vivres étaient coupés. Donc ils sont partis avec armes et bagages. Ils ont traversé le Niger et rejoint le nord du Mali. Donc la zone que les Touareg appellent la Zawad.
Oui, parce que ce qui est important, effectivement, c'est pour ça que je te demandais si tu pouvais nous donner un petit peu des éléments sur le Mali, c'est que il y a tout ce Sahel, hein, tout ce désert, toute cette partie nord du pays, et puis il y a les grandes villes, hein, et à l'intérieur de cet ensemble, le Mali, il y a des populations assez différentes et qui ont des traits sociaux, culturels assez marqués. La population de Bamako, évidemment, pas celle des Touaregs du Nord.
Oui, alors, sauf qu'il faut quand même savoir que dans le Nord, il n'y a pas que les Touaregs. Il y a les Sontroy, il y a les Peuls, il y a les Bozos, et il y a tous ceux que j'oublie. Hein. Et ça, c'est une première chose. Et il faut aussi savoir que les Touaregs ne sont pas unifiés entre eux. Il y a des tribus différentes qui n'ont pas forcément, et des clans différents qui n'ont pas forcément fait tous les mêmes choix. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, il y a des populations différentes au Mali, mais il faut faire attention à notre regard un peu déformé. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir les pays africains comme des agglomérations d'ethnies. Il y a une histoire africaine avant la colonisation. Et dans cette histoire africaine, l'empire du Mali a été un des plus grands empires d'Afrique de l'Ouest. Et donc, ce qu'on appelle ici des ethnies, moi, c'est un terme qui me gêne un peu, mais je ne sais pas quel terme on peut employer, ont été unifiées politiquement, culturellement, administrativement. Elles ont conservé leur langue, elles ont conservé leurs coutumes. Hein. Ce n'était pas un État-nation. C'est comme, l'Empire ottoman ou des trucs comme ça, où chacun conserve ses particularités. Et les Touaregs, ou une partie des Touaregs, eux aussi font partie de cette histoire. C'est-à-dire que il y a eu un grand empereur qui s'appelait Sundiata Keïta, ce qui est vers, faudrait que je révise. Mais enfin, on va dire entre le 11e et le 14e siècle, si vous me permettez cette approximation. Et après, il s'est passé la même chose qui s'est passé à la mort de Charlemagne, des guerres de succession. Et parmi les différentes successions de cet empire malien, il y a eu aussi les Touaregs, mais qui étaient des empereurs du Mali. Dans les empereurs du Mali, il y a eu des Touaregs aussi. Donc ils font partie. Enfin, il y a une histoire nationale qui existe en fait. D'accord. Donc ils font tous partie.
Alors raconte-nous un peu ce qui s'est passé en 2013 avec Serval. C'était Hollande qui avait les commandes en France. Dis-nous un peu ce qui s'est passé en 80.
Alors, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, donc, comme je vous l'ai dit, unanimement aux yeux des... Bon, la France est intervenue à la demande du président malien de l'époque. Et à l'époque, c'était déjà... Il y avait déjà eu un coup d'État, un autre coup d'État. Et donc, ce président était resté président pendant le coup d'État. Alors, c'était pas du tout le même genre de coup d'État que celui qu'il y a actuellement. C'était probablement un coup d'État pas vraiment préparé, c'est-à-dire qu'il y avait eu... donc là, je vous parle d'avant Serval, hein. Il y avait eu une protestation des soldats, et c'était pas un coup d'État d'officier de haut rang, c'était un coup d'État de caporaux, ou enfin, j'y connais pas trop rien dans les grades de l'armée, hein, moi. Et en fait, c'est plutôt une entrevue avec le ministre qui a mal tourné et qui s'est donc transformé en coup d'État. Et déjà, à l'origine de ce coup d'État, c'était déjà la guerre au nord avec les Touaregs, c'était le massacre d'Angolac, où je prononce pas forcément très bien, où il y a eu 103 soldats maliens égorgés, et les soldats et même la population incriminés à Manitou Manitouré, qui était le président de l'époque, en estimant qu'il avait fait beaucoup de concessions aux Touaregs, et en tous les cas, il n'avait pas envoyé de renfort, et en tous les cas aussi, Siali Al-Gadi, le chef de Ansardine, est un ancien ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite, nommé par ATT Amani Toumani Touré. Donc ça, c'est des embrouilles qui étaient déjà avant Serval, donc. Serval, donc, c'est ces colonnes de djihadistes lourdement armées venues de Libye, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une alliance entre les djihadistes, essentiellement Touareg, mais pas que, et le MNLA, qui est un mouvement officiellement non djihadiste, Touareg. Et ils se sont alliés. Et donc c'est eux, leurs colonnes, qui sont remontées vers Bamako. Alors, ce que disent les Maliens aujourd'hui, et moi je n'ai aucun moyen de vérifier, c'est que ce qui avait été demandé à la France, c'est de mettre à disposition leurs forces aériennes et pas leurs forces terrestres. Il faut savoir que le Mali possède, enfin possédait jusqu'à maintenant, puisque maintenant qu'il s'allie avec les Russes, ça y est, ils sont mieux armés, mais qu'il possédait zéro hélicoptère et que la France, en 2 ans de Serval et 7 ans, je crois, de Barkhane, n'a pas été foutu capable, ou plutôt n'a surtout pas voulu leur fournir un seul hélicoptère. Et quand l'avancée djihadiste a été stoppée, elle a été stoppée au centre du Mali, et le truc en fait qui était un peu décisif militairement, c'est qu'il y a pas, c'est le long du Niger. Le Niger, c'est un fleuve très très large, et il n'y a pas beaucoup de ponts sur le Niger, et à partir du moment où les djihadistes prenaient ce pont, enfin là, pour aller à Bamako, ça devenait un boulevard, quoi. Et donc ça c'est à Kona, et ça a été la bataille décisive pour stopper l'avancée des djihadistes. Et ce que disent aujourd'hui les Maliens, c'est que oui, dans un premier temps, les troupes françaises ont stoppé l'avancée djihadiste. Oui, dans un premier temps, elles ont plus ou moins nettoyé le nord. Mais ce qui s'est passé très vite, c'est que, alors si on prend, évidemment, personne ici, et généralement pas les auditeurs non plus, n'ont en tête la carte du Mali. Mais la région la plus au nord, c'est la région de Kidal. Et c'est aussi la région la plus revendiquée comme Azawad par les Touaregs. Et en fait, la France a empêché l'armée malienne de rentrer dans Kidal.
D'accord.
Ce qui a été assez mal pris, vous imaginez bien, par les Maliens. Et c'est à partir de là que sont partis les soupçons, à mon avis, fondés contre la France, de vouloir négocier quelque chose de séparé avec les Touaregs, puisque cette région est frontalière du Niger et de l'Algérie, et s'il y a de l'uranium au Niger et du pétrole en Algérie, je vois pas très bien pourquoi il n'y en aurait pas dans la zone de Kidal.
Qu'est-ce que ça représente l'armée au Mali en termes d'effectifs et en termes de popularité?
Alors, en termes d'effectifs, je ne saurais vous dire. En termes de popularité, l'armée est plutôt populaire. Elle est, comment dire, les soldats sont pas forcément vraiment séparés de la vie. Les casernes, enfin une caserne malienne, ça ressemble pas à une caserne française. Ils y sont avec leur famille, etc. Alors il y a des accusations de corruption contre les officiers, des accusations de piston, parce que évidemment un militaire c'est un fonctionnaire, et devenir fonctionnaire, comment dire, voilà, c'est une bonne situation dans la vie. Donc j'ai souvent entendu dire qu'on devenait militaire par piston, et donc du mépris pour les militaires. Et en même temps, ils sont pas payés, ils sont sous-payés, ils sont même pas payés à cause de la corruption. Il faut savoir qu'une partie des soldats maliens qui meurent, c'est parce que ils sont pas ravitaillés et ils sont obligés de sortir chercher du gibier pour bouffer. Hein. Et à cette occasion-là, ben ils se font tirer dessus. Et bon, je veux dire, en ce moment, l'armée, évidemment, est très populaire.
Ouais. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de militaires quand même, parce que je parle pas des soldats maliens, mais d'une manière générale, il y a environ 4 à, il y a eu jusqu'à 4 à 5 000 soldats français au Sahel, mais en fait, il y a eu jusqu'à 25 000 hommes déployés au Sahel, puisque en plus de la présence française, il y a la force Takuba, donc ça, c'est les Européens, et puis il y a censé avoir la force conjointe, donc ça, c'est les forces armées du G5 Sahel.
Oui, alors dans la force conjointe, les plus importants, en fait, les seuls dont on parle vraiment et qui jouent un rôle vraiment, c'était les Tchadiens.
Ouais, ce que je veux dire, c'est que ça fait 8 ans que les Maliens sont confrontés, alors non seulement aux attaques djihadistes, mais à des perturbations et à ce conflit, mais aussi à une occupation avec des militaires venus d'ailleurs, entre guillemets, quoi.
Oui, alors, le truc, c'est que, dans un premier temps, quand c'était Serval, une des choses que les Maliens ont exigé, c'est que les soldats français ne mettent pas les pieds à Bamako. Et leur base n'était pas à Bamako, et ils ont demandé à ce qu'ils sortent pas de leur base. Je crois que dans un premier temps, enfin, sauf pour les opérations militaires naturellement, je crois que dans un premier temps, ça a été respecté. En tous les cas, moi, la dernière fois que j'ai été au Mali, à Bamako, et donc c'était dans le glorieux temps de Barkhane, j'ai pas vu de militaires français. Et ils sont envoyés dans le nord, sur les opérations dans le nord. Mais ils ont leur base, ils partent aussi de leur base au Niger et dans le nord. Par contre, les populations du nord, elles, oui, je pense qu'elles subissent les bases militaires françaises.
Oui, il y a la grosse base de Gao, oui, effectivement. Mais aussi, ce qu'on peut souligner, c'est que il y a eu, semble-t-il, en tous les cas, à notre connaissance, qui est assez assez faible, il faut bien le reconnaître, mais en termes de coopération avec l'armée malienne, ça a été assez, enfin, ça paraît peu faible, quoi, en termes de coopération, de formation et de collaboration, quoi.
C'est
le moins qu'on puisse dire, oui. Parce que moi, j'ai des chiffres que j'ai lus. Alors, en 2013, il y avait l'armée malienne, c'était 8 000 hommes.
Oui.
Ça a augmenté depuis. On en est quasiment à 20 000 actuellement. Parce qu'effectivement, il s'est passé des choses importantes au niveau du Mali et au niveau de la motivation, je pense, des populations pour faire en sorte de s'engager dans l'armée au niveau des, au niveau des jeunes.
Alors, le manque de coopération entre l'armée malienne et l'armée française, c'est énorme. Et là, le premier problème, évidemment, c'est le colonialisme.
Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro, s'il te plaît, on t'entend loin.
Et là, vous m'entendez ?
Un petit peu mieux.
Alors, le gros problème, évidemment, c'est l'attitude coloniale de l'armée française. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas équiper l'armée malienne. Donc ils prennent les Maliens comme des espèces de supplétifs, et encore, et les Maliens devaient, alors plus depuis le coup d'État, hein, mais devaient demander l'autorisation à l'armée française avant de faire quoi que ce soit. Ce qui est assez hallucinant, puisque je veux dire, la guerre, elle est au Mali quand même. Ouais. Je veux dire, quand moi, il y a eu les premiers accords négociés avec les Russes, et que les Maliens m'ont dit fièrement, ouais, on a 4 hélicoptères. Je leur ai demandé, mais 4 hélicoptères, ça vous en fait combien de plus? Vous en aviez combien avant? Et qu'ils m'ont répondu 0. Je me suis dit dans ma tête, putain, 9 ans d'intervention française, et ils leur ont pas fourni un hélicoptère. C'est quand même assez...
Ahurissant, ouais.
Hallucinant, c'est ahurissant. Ouais. Ouais. Et quand là, les histoires récentes, c'est pas si vous avez vu que les quand les Danois ont voulu venir au Mali, les Maliens leur ont dit, vous êtes bien gentils, mais vous repartez là, on veut pas de vous. C'est quoi le fond de l'affaire? C'est que cette force européenne, elle se déplace à la demande de la France, sans demander d'autorisation au Mali.
Au Mali, c'est incroyable. Ouais.
C'est quand même... voilà, quoi, je veux dire. Dans les reproches, alors là, pas au moment de Serval, mais au moment de Barkhane, dans les gros reproches de la population à l'armée française, c'est qu'il y a eu un certain nombre de... Il y a eu des villages encerclés. C'est grand, le désert. C'est grand, le Mali. Donc, où il y a eu des... Où les militaires ont été prévenus, et ils ont demandé à la France leurs forces aériennes pour pouvoir intervenir, pour empêcher les militaires, les villages de se faire massacrer, et où la France a répondu, on peut pas, on est en train de faire un exercice, on a besoin de nos avions pour nos exercices.
D'accord.
Et ils sont intervenus plusieurs heures après, mais entre-temps, les villageois, ils avaient déjà été massacrés, évidemment.
Ce mépris, ou en tous les cas cette absence de considération, elle se traduit aussi dans la partie diplomatique, hein, puisque on l'a dit là, il y a eu un pseudo sommet à Bruxelles où le Mali n'était pas invité. Dans le cadre de la MINUSMA, les autorités maliennes sont peu, voire pas représentées. Pour donner un exemple, le chef d'état-major lorsqu'il a présenté et qu'il a fait un bilan de Barkhane devant les députés, a fait référence au maréchal Lyautey. Donc le maréchal Lyautey,
c'est le colonialisme,
on va dire, à l'état pur, complètement. Donc on voit qu'il y a quelques vieilles habitudes, on va dire, qui sont encore là, quoi.
Ah oui, c'est ahurissant. Et c'est ahurissant aussi de conneries de la part de la France. Parce que la France... Elle voudrait garder son précaré. Elle voudrait... Le principal enjeu, là, contrairement à ce qu'il raconte, le principal enjeu pour la France, c'est pas les djihadistes. Le principal enjeu pour la France, c'est sa mainmise sur le Mali et sur l'Afrique. Et ils sont tellement... L'idéologie coloniale leur est tellement implantée dans le crâne qu'ils multiplient les gaffes à un point insensé. Et de ce point de vue-là, Macron, c'est quelque chose, hein, parce qu'il dit qu'il est pour la modernité, un changement des rapports France-Afrique. Quand il a été élu, il a été faire ses vœux aux militaires français, ouais. Il a atterri directement sur la base française au Mali, sans même avertir les autorités maliennes.
Ouais.
T'as vu ça où, qu'un chef d'État se déplace dans un pays sans prévenir le pays? Ben, faut être... je veux dire, la mentalité coloniale est tellement forte, est tellement ancrée qu'il multiplie les gaffes. Et donc je pense qu'il y a eu un petit jeu d'intimidation réciproque entre la France et le Mali. Enfin, le Mali, c'est un peu compliqué pour lui d'intimider la France, mais bon. C'est-à-dire que la France a menacé de retirer Barkhane en pensant que comme ça les Maliens s'écraseraient. Mais les Maliens, la junte militaire qui a fait le coup d'État, c'est des militaires qui ont été formés en Russie, parce qu'il y a des très très vieux accords militaires avec la Russie qui datent du début des années 60. Hein. Et donc c'est pas une nouveauté, la présence russe au Mali. Et les Russes, eux, ils les forment, les militaires, si vous voulez que je vous dise. Donc les militaires maliens en ont considéré, le gouvernement malien, on a déduit qu'il fallait qu'il accélère les discussions avec les Russes.
Mmh. Oui, on peut donner d'autres exemples de cette, on va dire, on va dire de cette interrogation sur la capacité à percevoir les choses. Bon, on se rappelle ici de l'épisode de la clim à Ouagadougou où Macron s'était permis de plaisanter sur le président Barkhanabé en lui disant qu'il était parti réparer la climatisation alors qu'il était à la fac de Ouagadougou devant des étudiants, une petite espèce de mauvaise blague. La convocation au sommet de Pau des membres du G5 Sahel, véritablement, quand on est en une ancienne puissance coloniale, il y a quand même des formes à respecter. Et puis également l'annonce de la fin de l'opération Barkhane en juin 2021 en tant qu'opération extérieure. Il faut souligner que le Mali n'avait pas été mis au parfum de cette fin d'opération. Et puis il y a aussi le deux poids deux mesures, puisque situé dans la région, il y a eu la succession d'Idriss Déby au Tchad après la mort de son père en dehors de tout cadre légal. Et ben là effectivement c'est passé. Et puis quand il y a les militaires qui eux prennent le pouvoir en se justifiant, ils ont leur propre justification au Mali, il y a une forme de critique sur l'aspect démocratique, quoi. Donc on a vraiment des interrogations sur la stratégie, quoi. Ce qui marche d'un côté marche pas de l'autre, etc., etc., quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un espèce de complexe de supériorité, c'est-à-dire, et c'est souvent le cas, faut rappeler que depuis 50 ans il n'y a pas une puissance occidentale ou une grande puissance impérialiste qui a réussi à gagner un conflit dans des guerres asymétriques comme ça, quoi, sans foutre en l'air le pays, hein. Je pense par exemple à l'Irak. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi par exemple une méconnaissance et une incompréhension totale de ce que tu décrivais au début, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qui se passe dans la bande sahélienne et la méconnaissance de cette société des Touaregs, de cette société sahélienne et de ce qui fait la société malienne aussi.
Oui, mais là encore, c'est vraiment, je pense, une idéologie coloniale. Cette connaissance est hallucinante. Je veux dire, on a été là-bas combien de temps ? Je veux dire, on a des universités avec des départements d'études africaines. On ne sait pas le béaba de ce que savent les Maliens. Et quand les Maliens disent quelque chose, on les prend pour des cons. Je veux dire, c'est quand même. Moi, ça m'étonne à chaque fois. Je veux dire, on a eu une présence au Mali d'une centaine d'années. Et alors d'ailleurs, Macron a fait référence à Diotté, le premier ministre malien, qui n'est pas un militaire, hein, qui a été désigné par les partis d'opposition à l'ancien président comme premier ministre. Lui, il a rappelé que la France avait mis 38 ans à conquérir le Mali, et que, ce que je savais pas d'ailleurs, et que une fois qu'ils ont conquis le Mali, ils n'ont jamais eu deux années de suite sans révolte et en paix.
D'accord. Oui. Alors justement, tu vas nous parler de la réaction, parce qu'au début, je crois que on a les images qui paraissent de temps en temps, Hollande qui a son plus beau jour de sa vie militante, c'est quand il se retrouve à Gao, je crois, en 2013-2014. Et depuis, ça a été la catastrophe. Mais je crois qu'il y a eu des manifestations au Mali contre la présence de la France.
Oui. Alors, ces manifestations ont commencé avant la chute, enfin avant le coup d'État. Et déjà pour commencer, la deuxième élection du président malien, Ibrahim Keïta, Boubacar Keïta, les Maliens disent Ibeka pour aller plus vite, ont été extrêmement contestés. Il y a des fraudes qui ont été dénoncées. Et il faut noter parmi les gaffes diplomatiques que Macron l'a félicité de sa réélection avant même que la Cour... je sais plus comment ça s'appelle, enfin l'organisme censé valider les élections n'est proclamé sa victoire, hein.
D'accord.
Donc ça aussi c'est très mal passé, et donc cette réélection a été très contestée. Il y a eu d'énormes manifestations à Bamako, et dans ces manifestations c'était évident que Ibeka était l'homme de la France, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais séparé la contestation d'Ibeka, qui est une contestation de la corruption, etc., mais c'était en même temps une contestation de la présence française. Et donc, le coup d'État, c'est un coup d'État, mais en fait, Ce coup d'État a eu lieu en août, il me semble, et là, il y a une manifestation où l'armée ou la police a tiré sur la foule à balles réelles. Il y a eu 23 morts et ils ont y compris tué des gens qui s'étaient réfugiés dans une mosquée. Ce qui est évidemment, ça au Mali, c'est pas possible. De la même façon que tout le Mali était scandalisé par le fait que les djihadistes osent aller prier en armes dans les mosquées, ce qui pour eux c'est une insulte à l'islam, aller tuer des gens dans des mosquées, c'est aussi une insulte à l'islam, et le Mali est un pays encore très très religieux. Et donc, ce coup d'État a été très bien accueilli en fait par la population malienne, et bon, la justification officielle qu'en ont donné les militaires, c'est qu'ils voulaient éviter un bain de sang. Bon, après, hein, c'est les justifications officielles, mais c'est une explication qui est admise par pas mal de manières. Et ce qui fait la popularité du gouvernement, ben, c'est qu'il résiste à la France.
Ok, bah écoute, on va faire une pause musicale, puis on va en reprendre après, d'accord ? Tu ne nous quittes pas. Thank you.
Sylvie, tu es toujours là ?
Absolument.
On va quand même faire dire à nos auditeurs ce qu'on écoutait. C'était Balaké Sissoko avec un morceau de kora, cet instrument traditionnel. On voulait faire la seconde partie de notre discussion sur la situation de la population malienne et puis, on va dire, la poursuite du diktat néocolonial de la France avec l'attitude de la CEDEAO et puis les événements qui sont déroulés assez récemment, à savoir l'imposition d'un embargo contre le Mali qui a été décrété mi-janvier. Alors peut-être déjà tu peux nous parler de la CEDEAO, qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis sur quoi va porter l'embargo et qu'est-ce que ça va donner quel va être l'impact sur la population et sur l'économie malienne.
Alors la CEDEAO, le nom complet c'est Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'on peut bien résumer la situation en disant que c'est un syndicat de chefs d'État, en fait. Il y a...
Ils ont le droit aussi de se syndiquer.
Absolument. Ils ont un syndicat assez efficace, finalement. Donc, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso. Il me semble qu'il y a la Guinée, mais ouais. Elle a dit qu'elle ne respectait pas les sanctions. Je suis en train d'en oublier.
Oui, je me permets de donner quelques noms pour que les auditeurs comprennent bien ce que c'est. Hein. C'est des gens comme Alassane Ouattara, qui sont quand même, on va dire, des gens qui ont été placés sur la Côte d'Ivoire par la France. Pour le Togo, c'est Faure Yadema, donc qui est le fils d'un autre Yadema dont j'ai oublié le prénom, qui était président depuis les années 70. Quoi. Donc ce sont des grands progressistes, hein, comme tu peux.
Tout à fait. C'est Macky Sall aussi qui veut un troisième mandat, etc. Et en gros, ils sont francophiles, c'est comme ça qu'on peut dire.
Ouais. Oui, oui.
Enfin, c'est les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest. Et on peut dire toujours. Et donc, il y a eu une réunion, donc... une condamnation de la CEDEAO, puisque le Mali, c'est un coup d'État, donc c'est pas démocratique, à la différence. Quand c'est un coup d'État pour que le fils d'Idriss Déby prenne la succession d'Idriss Déby, c'est démocratique, apparemment, mais quand c'est le coup d'État d'une junte, ça ne l'est pas. Et donc, au début de leur coup d'État, il y avait eu des discussions, la CEDEAO posait des exigences, des palabres, et ils s'étaient engagés sur une transition de 18 mois qui... fini donc là au mois de février. Et ils ont annoncé que ils n'allaient pas respecter la transition. Alors ils ont des arguments. J'ai écouté le discours du Premier ministre qui l'annonçait et il disait qu'il était pour des élections, mais que avant de faire des élections, il fallait se poser une question. Des élections, pourquoi faire ? À quoi servent les élections ? Et j'ai pensé, moi, judicieuse question. Et donc, ils expliquent qu'il faut que les élections soient légitimes et que pour des élections légitimes, il faut d'abord éliminer la corruption, parce que un État gangréné de Benzaro ne peut pas apparaître comme légitime. Et puis, il faut que les élections puissent se dérouler sur l'ensemble du territoire. Alors, je vous rappelle que 80% du territoire malien est sous la menace djihadiste. Et donc, ils ont dit qu'il fallait d'abord remplir ces conditions avant de faire des élections. Et ils avaient mené en décembre un truc qu'ils ont appelé les assises de la refondation, qui se sont apparemment tenues dans beaucoup de régions du Mali, y compris celles qui sont tenues par les djihadistes, où ils ont consulté les syndicats, les associations, les partis politiques, les notables, les simples gens. Mais après, je ne sais pas combien de monde ça réunit exactement, et je ne sais pas exactement quelles propositions... en sont sortis. Il y en a eu énormément de propositions qui en sont sorties. Et basé là-dessus, ils ont proposé la CEDEAO d'organiser des sélections d'ici 5 ans. ce qui était, d'après eux, une base, non pas une décision, mais une base de discussion pour la CEDEAO. Et donc la CEDEAO a dit pas question, mais a refusé de discuter. Et donc des mesures d'embargo ont été prises contre le Mali, qui sont des mesures d'embargo extrêmement dures. Il n'y a jamais eu rien de pris aussi dur depuis plus de 10 ans. Et donc ces mesures d'embargo, c'est bon, fermeture des frontières, suspension de toutes les transactions commerciales, et que le Mali n'ait plus accès à ses avoirs à la BCAO. La BCAO, c'est la Banque Centrale d'Afrique de l'Ouest, c'est leur BCE en quelque sorte. Et eux, ils ont le CFA, comme nous on a l'euro. Donc c'est comme si on disait que la France n'a plus accès à son compte à la BCE. Donc ça, c'est un truc que... Alors, la BCAO, et leur zone euro, eux, ça s'appelle l'UMOA. C'est vraiment un truc colonial, hein. Le CFA, c'est vraiment un truc colonial. C'est-à-dire que la France c'est pas une monnaie convertible. Elle est convertible que avant en francs et maintenant en euros. La France garantit la convertibilité en échange qu'ils déposent à la BCAO la moitié de leurs réserves de change. La moitié, traduit en français, ça veut dire que quand ils exportent, la moitié de ce que ça leur rapporte doit être déposée auprès de la France.
pour être clair, il y a aucune souveraineté monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, quoi. Donc pour faire une politique même de d'investissement ou de services publics, etc. On voit à quel point c'est mort, quoi. S'il y a pas la bénédiction du grand frère, quoi.
Absolument. Et alors ça, cette histoire de déposer la moitié des réserves de change, Macron l'a quand même supprimé en 2019, mais il y a un truc dont j'ai pas compris ce que c'était devenu, j'arrive pas à savoir, c'est que pour les opérations extérieures, ça devait passer par la Banque de France. Uh-huh. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Donc, il y a un embargo qui a été pris, donc, très dur contre le Mali. L'idée, je pense, de l'embargo, c'est de provoquer un chaos économique pour que la population se retourne contre la junte. C'est un grand classique, hein. Ce qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait des rumeurs qui couraient au Mali comme quoi ils allaient créer leur propre monnaie et sortir du CFA.
J'ai vu ça.
Mais généralement, pour le moment, tous les chefs d'État qui sont sortis du CFA, il y a eu des tentatives dans les années 60-70, généralement ils en sont morts, hein.
Mais pourtant, tu l'as dit en introduction, il y a un sentiment patriotique assez fort au Mali. Est-ce qu'on peut pas imaginer que cet embargo, il est l'aspect contraire, c'est-à-dire de resserrer la population autour de ses dirigeants et justement d'augmenter la défiance vis-à-vis des Français?
C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations contre la CEDEAO et contre la France monstres au Mali. On a manifesté dans toutes les villes du Mali et on n'avait pas vu de manifestation de cette ampleur. Je ne sais pas, c'est pas même depuis l'indépendance du Mali.
D'accord.
Donc, ça a eu un premier effet de souder la population au niveau de la junte et, à mon avis, de ne pas améliorer les libertés démocratiques individuelles, parce que je pense que quand tu es au Mali aujourd'hui, c'est très compliqué de critiquer la junte. Et là, je ne parle pas de l'intervention des forces de police. Je parle de tes emmerdes avec les voisins.
Oui, ouais, bien sûr.
Donc, dans un premier temps, ça a soudé la population auprès de la junte. Alors, il faut qu'ils soient vraiment cons pour avoir imaginé que ça pouvait avoir un autre effet que celui-là. Alors, après, eux, ils parient peut-être sur un effet plus à long terme. C'est-à-dire que quand les effets de la crise économique se feront plus s'en sentir, ils espèrent que la population se retournera. Sauf que c'est pas un pari gagné d'avance. Alors d'abord, la France se fout vraiment de la gueule du monde. C'est-à-dire qu'elle a poussé la CEDEAO à faire l'embargo, mais tu peux prendre l'avion pour le Mali depuis la France. Hein. Là, il n'y a pas d'embargo. Bon. Moi, je serai à la place des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. J'apprécierai pas. Et les échanges, parce que le Mali est un pays complètement enclavé. Alors déjà, la Mauritanie fait pas partie de la CEDEAO et la Guinée Donc la Mauritanie et la Guinée ont déjà dit bienvenue, nous on n'applique pas les sanctions. Si vous voulez passer par notre port, passez par notre par nos ports, passez par nos ports.
D'accord.
Et évidemment, alors ça pose des ça va pas peut-être pas se faire comme ça du jour au lendemain, ça pose quand même un peu de problèmes logistiques, de taille des ports et tout ça. Mais bon, mais par contre, je veux dire le port de Dakar, le transit pour le Mali, c'est une part très importante ouais. de leur chiffre d'affaires. Et Abidjan, un peu moins maintenant, parce que quand il y a eu la guerre à Abidjan, avant c'était surtout par Abidjan que transitait le trafic malien, mais quand il y a eu la guerre, ben, ça s'est déporté plus sur Dakar. Mais c'est quand même aussi une part importante du trafic du port d'Abidjan. Et au Sénégal, en tous les cas, il y a commencé déjà à y avoir des manifestations, des dockers, des transitaires et des commerçants qui sont furieux. Et donc ça, c'est première chose. C'est-à-dire que c'est le jeu d'intimidation réciproque qui continue. Ils espèrent qu'avec ces sanctions, ils étrangleront le Mali et le peuple se retournera contre la junte. Et le Mali pense que les pays de la CEDEAO ne pourront pas tenir l'embargo parce que leur peuple va se retourner contre eux.
Oui, mais entre les deux, il y a les populations, parce que c'était, tu as devancé ma question, mais dans cette bande sahélienne et dans cette CEDEAO, on a aujourd'hui des États qui sont déstabilisés par les poussées djihadistes et les perturbations que tu as décrites avec des armes en circulation, des trafics et effectivement des attaques, mais il y a une possibilité en touchant à cette économie qui est déjà pas en super forme, mais qui fonctionne quand même, mais de déstabiliser économiquement toute cette bande, ne serait-ce que quand tu évoquais les trafics de marchandises, on va dire légales, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, entre Abidjan et Dakar.
Oui, et même encore plus que ça, c'est-à-dire que le Mali est le premier producteur d'Afrique de l'Ouest.
Oui, c'est ça, oui, c'est pas un
détail de moutons. C'est-à-dire que l'embargo, concrètement, ça veut dire que le mouton va augmenter de prix et va être de plus en plus difficile à trouver au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est surtout le Sénégal qui est approvisionné par le Mali. Et je veux dire, le mouton, là-bas, c'est la viande de base. Hein. C'est comme si on n'avait plus de porc en France. Et il y a au Sénégal des mouvements anti-corruption et pro-démocratie assez importants. Et en Côte d'Ivoire, c'est toutes les histoires autour, évidemment, que Gbagbo a apporté son soutien au Mali. Et il y a, je ne sais pas quelle est l'importance des mouvements panafricanistes dans tous ces pays-là, mais évidemment que tous les panafricanistes soutiennent le Mali. Donc le pari du Mali, c'est qu'il va y avoir des troubles intérieurs très forts dans les pays de la CEDEAO, mmh. et que les pays de la CEDEAO vont pas pouvoir politiquement tenir l'embargo. Parce que alors le Mali exporte aussi beaucoup au Sénégal du citron et du tamarin, donc vous vous rendez pas compte, vous êtes des Français, mais le citron et le tamarin, on en met partout. Je veux dire, le tiep sans citron, ça manque de charme, hein. Quand même, et le tamarin, c'est aussi très utilisé. Donc ça va poser des problèmes d'alimentation dans les pays de la CEDEAO. Alors la France espère peut-être rafler le marché, mais bon, on ne sait pas. Pour moi, je ne sais pas lequel des deux côtés va gagner son pari.
En tous les cas, sur les premiers éléments, c'est que toutes les populations qui sont concernées de près, je pense notamment aux FASO, sont en train de rejeter de plus en plus la France sous sa forme militaire ou sous sa forme politique. Il y a une colonne, il y avait des troupes françaises qui ont été bloquées au Burkina, alors que, on va dire, le compagnonnage de la France et du Burkina Faso est historique, quoi. Il y avait vraiment grande coopération. Pardon ?
Attention, le compagnonnage est historique, mais le Burkina Faso a eu pendant un temps comme chef d'État Sankara, populaire, Et lui, il compagnonnait pas. Alors, ce que je, le mec qui a été renversé là, c'est le premier président élu après la chute de Compaoré, qui est le mec qui a assassiné. Enfin, l'enquête n'a pas abouti, mais qui est le mec qui a assassiné
Blaise Compaoré.
Voilà.
Donc, non, je dis ça parce que à côté de Reims, il y a Épernay, et Épernay est jumelé à Fadaïd Gourma, et donc il y a quelques-uns de nos auditeurs qui connaissent un peu le Faso. C'est peut-être le pays d'Afrique qu'on connaît le mieux, mais bon, c'est pas grave.
Ah d'accord. Mais, et en tous les cas, ce qu'il faudrait pas qu'on s'imagine, c'est que faudrait surtout pas s'imaginer que le choix est entre la France et les djihadistes. Il y a des mouvements populaires profonds qui se passent. Et c'est pas du djihadisme. Alors après, vu d'ici, chaque fois qu'il y a un truc, on dit djihadiste. Non. Il y a des mouvements de la jeunesse contre la corruption, il y a des mouvements pour la démocratie, et il y a des mouvements pour récupérer une dignité et une indépendance.
Au Faso, il y a le balai citoyen.
Voilà.
Très bien. Et... alors, il nous reste quelques minutes. Moi, je vais juste te poser une question, puis je laisserai la parole à mon camarade. Bon courage pour faire la conclusion et ouvrir sur les perspectives. Est-ce que tu as des éléments, parce qu'il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle là-dedans, c'est le silence de en tous les cas, officiellement, de l'Algérie, et notamment sur le Sahel et sur le Sahara. Normalement, quand même, c'est un peu son truc, quoi. C'est un peu aussi son précaré, quoi. Et j'avoue que le fait de ne pas avoir entendu ou ne pas avoir vu ou connaissance d'action de l'Algérie dans cette zone, en tous les cas jusqu'à aujourd'hui, me pousse à me dire qu'il y a quelque chose derrière. Est-ce que tu as des éléments là-dessus?
Alors, j'ai pas d'éléments précis, évidemment, hein, je suis pas en position d'en avoir.
C'est bien dommage, moi qui pensais.
Ce que dit le gouvernement malien. D'abord, il parle peu, le gouvernement malien. C'est pas des grands bavards. Enfin, si, Chokel Maïga, le premier ministre, parle plus, et il présente systématiquement l'Algérie comme un ami important. Et quand on lui demande pourquoi, il répond à juste titre qu'il suffit de regarder une carte, hein.
C'est vrai.
Que je veux dire, c'est avec l'Algérie qu'ils ont le plus de frontières, et ils ont l'Algérie s'exprime peu, mais leur a apporté son soutien. Ils peuvent aussi passer par l'Algérie ne respecte pas l'embargo, par exemple. Mmh. Sauf que je veux dire, la zone du Sahara à traverser.
Ah, il y a des milliers de kilomètres quand même.
Ils ont envie de passer par là, quoi. Et je les comprends. Mais donc, ils ont plutôt, je pense, le soutien de l'Algérie. Et quand on leur dit, vous discutez avec les Russes, ils disent toujours, nous discutons avec plusieurs pays. Ils n'en citent aucun d'autre que les Russes. Et moi, je pense que dans les plusieurs pays, il y a l'Algérie.
D'accord. Avant de se quitter, parce que c'est bientôt terminé, je voulais qu'on parle un petit peu des intérêts de la France là-bas, puisque quand on écoute un peu le pouvoir français, ils nous disent « Ah bon, il n'y a aucun intérêt au Mali, ils n'ont rien dans leur à nous vendre, on n'a rien à prendre. » Contrairement au Niger, où il y a évidemment l'uranium. Est-ce que toi, tu as des informations là-dessus, sur les intérêts de la France au Mali au niveau économique?
Alors, mes informations ne sont pas fiables. Hein. Sur le sous-sol, ils ont quand même, les Maliens, juste de l'or, du cobalt et de l'uranium. Excusez-moi du peu, hein, quand même. Alors, effectivement, les mines d'or qui sont pas dans la zone de Kidal ne sont pas exploitées par la France, mais par d'autres multinationales. Ce que disent les Maliens. Mais je ne sais pas... si c'est une fake news ou si c'est vrai, c'est que dans la zone de Kidal, il y a un aéroport qui fonctionne, qui a été fait et qui fonctionne sous protection française, et que il y a des mines qui sont exploitées au profit de la France. Je ne sais pas la part de vérité là-dedans. Moi, ce qui me semble, c'est que les trucs géologiques, ils s'arrêtent rarement aux frontières.
Oui.
Donc, s'il y a de l'uranium côté Niger, j'imagine qu'il doit y en avoir aussi côté malien. Donc ça, c'est pour le sous-sol. Et après, il y a les autres intérêts. Il y a le téléphone portable, c'est Bouygues. Enfin, comme dans tous les, il y a eu beaucoup de trucs privatisés et qui sont aux mains des Français.
Des grosses entreprises françaises. Ouais.
Voilà. Après, je pense. Alors, je profite. Il n'y a pas de mania autour de moi. Je pense que effectivement, économiquement, le Mali n'est pas central pour la France en Afrique. Son sous-sol est riche, mais il n'est pas complètement vendu à la France. Les Maliens ont toujours été, y compris ceux qui sont officiellement fantoches de la France, il y a certains trucs pour lesquels ils ont quand même toujours été plus indépendants que les autres. Mais par contre, le Mali est central au niveau politique et militaire. Et je veux dire central dans leur domination d'Afrique de l'Ouest. C'est un peu la théorie des dominos, je ne sais pas si vous vous ouais. souvenez. C'est-à-dire que si perdent la main sur le Mali, ils risquent assez rapidement de perdre la main...
sur le Burkina, etc. Quoi.
Voilà. Oui, dans les gens avec qui discutent le Malien, il y a aussi évidemment les Turcs.
Ouais, il n'y a pas que les Russes, il y a les Turcs aussi. Ouais.
Ouais. Ben oui, enfin je veux dire, maintenant moi je me mets à leur place, hein, moi je discute à leur place, je discuterai avec n'importe qui, hein. Ils ont besoin d'armes.
Ouais.
Et aussi le pari qu'ils ont annoncé politiquement, leur autre divergence avec la France, c'est qu'ils disent que entre Maliens, on peut toujours arriver à discuter et s'arranger. C'est-à-dire qu'ils estiment, et tous les experts là-dessus sont d'accord avec eux, le djihadisme s'appuie sur des problèmes d'absence de l'État malien, des problèmes de terre, de problèmes d'accès à la terre, de problèmes d'accès à l'eau, etc. Et que tous ces problèmes-là peuvent se discuter entre maliens.
Ouais,
et leur pari, c'est de répondre aussi au djihadisme comme ça.
Oui, et d'ailleurs la France était en contradiction là-dessus, puisque pour les Français, les djihadistes, c'est des gens qu'il faut tuer. Alors que les Maliens disent bien qu'il y a djihadistes et djihadistes.
Absolument. Et ils ont raison. Hein. Je veux dire, dans les djihadistes, bon, il y a les troupes venues de Libye, les trucs clairement affiliés soit à Al-Qaïda, soit à Daesh. Mais il y a eu tout un petit jeu entre villages, et ça, c'est une des raisons de la colère des Maliens contre le gouvernement précédent et contre la France, où certains se sont dit que pour se faire respecter, ben, ma foi, si tu te déclarais djihadiste, tu avais peut-être des chances qu'on t'emmerde moins. Et d'autres qui se sont dit que, tiens, ben, contre tel village, on va se constituer en milice anti-djihadiste, on aura du financement et de l'arme et des armes des gouvernements.
Bah écoute, on est obligé de s'arrêter. On te remercie bien, Sylvie.
Merci, Sylvie.
Et puis, à très bientôt.
À bientôt.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de... Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.